Les trépidantes aventures du commandant Pinson et de son fidèle second Fauvel par Sophie Malcor. Résumé de l'épisode précédent. Après que Pierre Arnaud du pont de la Jouissière eut fait avec moult détails le récit de la chasse aux papillons de sa tante Marie-Léopoldine de Saint-Fulbert et la contribution aussi considérable que bienvenue du docteur Lapierre, Pinson s'apprête à entamer le récit tout aussi détaillé de sa visite nocturne. Inutile de dire que l'atmosphère joyeuse risque bien de ne pas durer. Épisode numéro 165. Personnages principaux, le commandant Pinson, son second Fauvel, le chef Pierre Arnaud du pont de la Jouissière. Lieu, le bureau joliment décoré de Pierre Arnaud du pont de la Jouissière dans les locaux de la BASTON. Heure, le milieu de la matinée approche à grands pas. Dans le joli bureau de Arnaud du pont de la Jouissière, l'ambiance a soudain changé et celui-ci, ainsi que Fauvel, est pendu aux lèvres de Pinson qui s'apprête à lâcher un nom. Pinson, mine de rien. Monsieur, si tant est que l'on puisse encore employer ce qualificatif à son endroit, Édouard Henri Delabre de Picnasal. Jouissière, avec une émotion non feinte.
Quoi ? Vous avez vu Édouard Henri ? Vrai ? En chair et en os ?
Et avec une force inattendue.
Que ne le disiez-vous plus tôt ?
Pinson, avec malice.
N'aviez-vous pas un récit à nous faire ? Je ne voulais pas ruiner vos effets, voilà tout.
Jouissière, ayant retrouvé sa contenance.
C'est vrai. Mais au regard de l'importance, enfin passons. Comment va-t-il, ce cher ami qui me manque presque autant que mon petit Pierre-Marie ? A-t-il un peu évacué son ressentiment ? Question un peu pertinente que je retire immédiatement.
Évidemment non.
Avec un profond dépit. La querelle ne pouvait être vidée à si peu de frais.
Pourquoi Édouard Henri se montre-t-il si entêté ? Il me répugnerait tant de devoir à nouveau lui faire du mal, mais quand le cœur est sourd à toute raison.
Pinson, ménageant soigneusement ses effets. Même si l'entretien s'est révélé douloureux pour ce pauvre Anatole, je n'ai pas dit qu'il n'avait pas été fructueux.
Jouissière, reprenant soudain espoir.
Vrai ? Alors ne me faites pas languir plus longtemps, contez-moi cela dans le détail.
Pinson, rassurant.
Telle était bien mon intention. La négociation, vous vous en doutez un peu, ne se présentait pas bien, surtout après une telle introduction. Mais après bien des efforts, je suis parvenu à esquisser un début d'accord assorti de quelques conditions drastiques, mais pas impossibles à remplir. Votre ami renonce à son vilain petit commerce à la condition express que non seulement le général Bip reçoive le châtiment qu'il mérite, mais que Gervas de Montrelac partage son sort. La fuite ou le suicide ne pourraient constituer une sortie acceptable. Édouard Henri de Picnasal s'est montré très clair sur ce point.
Jouissière, semblant soulagé d'un grand poids.
Eh bien, savez-vous que nous l'avons échappé belle, vous et moi ? Sans la révélation sans phare de la nature fourbe de Montrelac, j'eusse été bien en peine de remplir la seconde partie du marché. En effet, celui-ci, par des sentiers les plus tortueux, s'apprêtait mine de rien et sans éprouver visiblement la moindre gêne à s'embarquer pour l'Amérique du Sud, au Chili, pour être plus précis, où il semble encore compter trop d'amis tous prêts à l'accueillir. Heureusement pour moi, le faussaire auquel il s'est adressé pour obtenir de nouveaux papiers n'est pas tout à fait un inconnu, et c'est une chance. Non que la qualité de son travail soit en cause, mais justement, comme c'est l'un des meilleurs dans sa partie, il nous arrive, à nous aussi, de recourir à lui en cas d'extrême urgence. Bien évidemment, Gervas avait pris la précaution de dissimuler son identité, mais peine perdue, le faussaire l'a reconnu, et a aussitôt pensé que cela pouvait m'intéresser. De toute façon, cela ne changeait strictement rien pour lui, puisque même si l'affaire ne s'est pas faite, il a tout de même reçu une très jolie rétribution. Si vous voulez avoir un homme de sa trempe dans votre manche, il est avisé de ne pas mégoter question paiement. C'est une mine incomparable de renseignements. Pas comme cette entêtée d'Alfred Moinard, que nous nous apprêtons à remettre dans la nature. Cette fois, je crains bien qu'Édouard Henri n'y soit allé un peu trop fort. Le vieux ne sait vraiment rien. Comme la République ne peut le conserver éternellement en son sein nourricier, nous l'envoyons se faire pendre ailleurs. Pour ma part, je m'en lave les mains, et bonne chance à lui. Là, cependant, n'est pas le sujet. Encore que. Où en étais-je ? Ah oui, avec une satisfaction non feinte. « Ce cher Gervas, comme il m'a été agréable de le faire cueillir au petit matin, un bon point pour lui. Il ne nous a pas fait perdre de temps puisque les valises étaient déjà sagement rangées dans l'entrée. » Firmaine était en tenue de nuit, visiblement ravie de la situation. Elle n'a même pas haussé un cil, mais cela, elle ne le peut plus depuis quelques années. Quand ce mari était emmené manu militari, savez-vous qu'il a eu le mauvais goût de se plaindre? Il voulait à tout prix appeler son avocat. Firmaine ne lui a pas tendu la moindre main secourable, mais il faut dire qu'il l'avait copieusement insulté. Elle n'a pas eu l'air d'entendre. Quant aux filles, Marie-Jeanne, Cyrielle et Clotilde, elles n'ont guère montré plus d'émotion. Là, Gervas ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Il ne leur a jamais témoigné la moindre affection. Elles avaient le malheur d'être des filles. C'est dommage, car Cyrielle est une vraie beauté et Clotilde promet beaucoup. Quant à Marie-Jeanne, je ne suis pas sans savoir que si la nature l'a moins favorisée que ses sœurs, bien qu'elle soit loin d'être vilaine, elle ne poursuit pas moins de solides études. Heureusement que la grand-mère paternelle, une femme aussi attachante que remarquable, a toujours réglé les frais de scolarité, et même bien plus. Elle se déclare enchantée de la mise au secret de son rejeton. Pour un peu, je pourrais presque dire que j'ai fait une bonne action. J'ai invité Firmaine et les filles à se joindre à nous le week-end prochain. Ce sera d'autant plus intéressant que j'ai autorisé Anastasie à inviter les petites Belkacem. Mais il faut dire que j'avais beaucoup à me faire pardonner. » Avec un embarras soudain, Anastasie est tombée sur le petit cercueil à son effigie. Je l'avais bêtement laissé traîner sur mon bureau, au lieu de le mettre en lieu sûr. Évidemment, elle a fait une crise épouvantable, des cauchemars terribles. Je m'en suis voulu horriblement. À un moment, j'ai craint que ses résultats s'en ressentent. Mais Nana est parvenue à tenir bon. Je ne pouvais donc faire moins qu'inviter ses petites amies. Bien sûr, Aimée Henriette a dû réviser son menu, mais il y avait si peu de conséquences que Madame Mercier, notre cuisinière, n'a fait aucune remarque. Bien au contraire. Il y a longtemps qu'elle voulait apprendre à faire des pâtisseries orientales, et comme les petites semblent posséder de bonnes bases, je crois que tout le monde va y trouver son compte. Pinson, peut-on savoir où se trouve le sieur Montrelac? Jouissière, pas précisément, vous vous en doutez bien. Ah, il peut en péter autant qu'il le veut, personne ne peut l'entendre là où il est. Et croyez bien qu'il ne bénéficie pas des mêmes avantages que mon petit Pierre-Marie. Il n'a qu'à s'en prendre à lui-même. Il est loin d'y mettre la même bonne volonté. Aux dernières nouvelles, il ne cesse de s'emporter sur l'irrégulier de la chose. Comme si c'était régulier de laisser périr une jeune fille sans lever le petit doigt. Fauvel, l'air de ne pas y toucher. Sans vouloir trop dire, chef, comment va Monsieur Crevard ? Jouissière, visiblement heureux de la question. C'est bien de vous en soucier, Fauvel. Cela révèle une nature sensible aux sourds d'autrui, et j'en suis très heureux. Savez-vous qu'il me stupéfie? Non seulement il se porte le mieux du monde, mais il prend sa claustration forcée pour une retraite bienvenue. Sa cheville se remet doucement et pas un seul coup tordu depuis qu'il est au secret. Vous pensez bien que, le connaissant comme je le connais, et chaudé par les expériences passées, je le fais surveiller de près. En vain, il m'est heureux de l'affirmer. Il trouve sa cellule agréable. Il peut, c'est la plus grande. Il fait beaucoup d'exercices et il dévore la bibliothèque. Bien sûr, sa famille lui manque, mais il se fait une raison. Je crois qu'il est sincèrement heureux d'être toujours en vie. Du coup, il me rend quelques services, alors même que je ne lui ai rien demandé. À suivre.